Bonjour, c'est avec grand plaisir que j'accueille à Bordeaux, au nom de la librairie Mola, Marc Voline, qui s'est chargé de la traduction en français donc du premier volume des planches du dimanche de Crazy Cat, donc bande dessinée américaine légendaire dont il va nous parler. Et donc pour faire une présentation très très rapide, Marc Voline est quelqu'un qui a été aussi dans une vie antérieure un des rédacteurs en chef, c'était il y a 30 ans pile, d'une revue légendaire Métal Hurlant. Et il a eu énormément d'autres activités dans le secteur, bon, de la bande dessinée, de l'édition, de l'écriture, de la traduction. Et nous le recevons aujourd'hui pour qu'il nous parle de son dernier projet, donc cette monumentale traduction, monumentale par la taille et par la qualité, traduction en français du Crazy Cat de Georges Herriman. Donc, c'est à vous.
Merci, bonsoir. Bon, je vais commencer par une toute petite présentation de la bande pour ceux qui ne l'auraient jamais lu. Je ne sais pas si tout le monde connaît Crazy Cat ou pas. Disons que l'image qu'on avait jusqu'à il y a peu de temps de Crazy Cat, c'est donc ce fameux triangle amoureux sur un fond de décor absurde et surréaliste dans le désert du Nouveau-Mexique, entre un chat, un chien et une souris, le chat étant amoureux de la souris. La souris lui balance, qui ne supporte pas ses attentions, lui balançant une brique pour le repousser, et le chat prenant ça pour une preuve d'amour, étant malheureux comme une pierre s'il n'a pas sa brique quotidienne sur la caboche. Et le flic, le chien qui est le flic du comté, étant secrètement amoureux du chat, veut le protéger, entre guillemets, des méchancetés de la souris, et met la souris en prison dès que le forfait est accompli, ce qui rend le chat encore plus malheureux. Avec le problème que nous, là je vous parle en français, donc les animaux ont des genres en français, ce qu'ils n'ont pas en américain. Donc ce qui est sûr pour le genre des animaux en question, c'est que le chien, comme la souris, sont des mâles, de manière indiscutable. Ignace, la souris, le souriceau, est marié et père de trois chenapans. La virilité du chien aussi ne saurait être mise en question. Quant au chat, on ne sait pas. Herriman a toujours entretenu, malgré le doute, malgré les nombreuses questions, sur un plan, puisqu'on est là pour parler d'une traduction, sur un plan purement grammatical, le chat est toujours excessivement majoritairement désigné au masculin. Tous les pronoms sont, les pronoms, pardon, je suis un peu enrhumé, sont au masculin, sauf de temps en temps où il est désigné au féminin dans des situations très, très particulières. Là-dessus, quand je disais, on a vu cette bande jusqu'à présent sous l'angle uniquement des relations entre les trois personnages, et on lit encore aujourd'hui que la souris est méchante, elle aime pas le chat. C'est un peu une erreur qui vient du fait que jusqu'à présent, on n'avait pas toutes les BD à notre disposition pour les lire. Maintenant, au moins pour les États-Unis, avec les nombreuses rééditions, on a pu lire beaucoup de strips et des strips du début, où on s'aperçoit en fait qu'il y a une certaine complicité entre le chat et la souris. Ça, on y reviendra. Toujours est-il que Herriman a tenu pendant à peu près 30 ans sur ce thème. Et aussi, on dit il n'y a uniquement que cette histoire de briques. Et là aussi, c'est pas uniquement tout à fait vrai, parce que ce qui énerve aussi la souris, c'est la vision du monde qu'a le chat. Le chat, il redécompose tout, il voit tout à sa manière, il redécompose le langage, évidemment, ce qui est une des plus grandes des caractéristiques qui a le plus marqué les lecteurs depuis le début. Donc, pour faire un bref point sur sa langue, elle nous parvient déjà par le filtre d'une transcription phonétique. Donc le lecteur a déjà le problème, le lecteur américain, et même le lecteur américain d'aujourd'hui, a le premier problème de redécouvrir les mots derrière la phonétique. Quant aux mots eux-mêmes, Ils proviennent évidemment de l'américain courant, mais également de deux, principalement de deux dialectes. Un qui est le dialecte de New York, où Harry Mann donc, a longuement vécu, et l'autre le dialecte de la Nouvelle-Orléans, où il est né et où il a passé sa petite enfance. Ces deux dialectes ont beaucoup de points communs du fait qu'il s'agit de deux ports avec une grosse immigration et des nationalités communes qui arrivent entre les deux. Donc déjà, les points communs, c'est l'irlandais, le yiddish, l'allemand, et évidemment pour la Nouvelle-Orléans, il y a la caractéristique particulière du lieu qui est le créole. En plus, d'après Michael Tisserand, son biographe qui est en train de terminer, donc son énorme biographie qui devrait sortir pour le centenaire de Crazy Cat l'an prochain, certainement que la langue maternelle de Herriman était le français. Ce qui est sympathique quand on est un traducteur français. Et puis, il mettait à peu près de toutes les langues, qu'il pratiquait. Et il en pratiquait beaucoup. Et quand je disais qu'il reconstruisait le monde, c'est-à-dire à la fois il transforme le langage, et en plus, dans la difficulté pour le comprendre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mauvaises, ce qu'on appelle des mauvaises, de collisions de mots comme dans Lewis Carroll, dans Alice au Pays des Merveilles, mais c'est comme s'il prenait, si on prend une phrase, quand vous ne comprenez pas une langue, on prend une phrase, une phrase parlée comme une phrase musicale, et il découpe des mots différents, voilà. Donc, et de la même manière, il a une vision du monde qui est également différente. Et souvent, surtout dans les premiers temps, ce qui déclenche la brique, c'est Ignace qui pose une question à Crazy, qui répond de manière complètement, ce qui paraît à Ignace complètement loufoque, abracadabran. Voilà. Donc voilà un peu pour le tout démarrage de la bande dessinée. Alors, en tant que traducteur, une des premières questions que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui, à l'époque, a pu déclencher le succès et la faveur du lectorat ? Parce que, malgré ce qu'on a pu écrire, au tout début, il y a eu un bon succès populaire de la bande, vraiment au tout début. Ce qui explique d'ailleurs que l'éditeur est offert ensuite à Crazy son propre strip, puis ses planches du dimanche. Donc, qu'est-ce qui peut attirer et faire rire le lecteur des années 10, ça démarre dans les années 10, cette histoire de chat qui apparaît masochiste, qui se prend une brique sur la tête tous les jours et qui en redemande, et de chat masochiste et au sexe indéterminé. Donc cette première question m'a permis de découvrir qu'en fait, même si Herriman va faire une œuvre exceptionnelle, entière, qui n'est propre qu'à lui, mais il s'inscrit tout de même dans plusieurs traditions du comique. Sur le plan du langage dont on parlait à l'instant, il y a une grande tradition et de parler phonétique et d'avoir recours à des parlers vernaculaires, locaux, régionaux pour faire rire. Et cette longue tradition à l'époque d'Herriman, la dernière célébrité à l'avoir employée, c'est Mark Twain dans Huckleberry Finn. Quant aux questions et de couleurs, puisque là je vais emprunter une citation à une universitaire américaine qui s'appelle Elizabeth Crocker, qui pour le moi le mieux définit au-delà de tous les débats ce qu'était Crazy Cat au point de vue du genre et de la race. Elle dit ben voilà, généralement c'est un mâle et généralement c'est un chat noir. Et puis il y a des exceptions et des circonstances où il devient blanc et où il devient une chatte. Avec une certaine tendance, elle le dit déjà, elle dit qu'il change de sexe en fait quand il y a une situation à rétablir. C'est vrai que à l'époque où nous avons les suffragettes qui manifestent pour le droit de vote des femmes, Herriman semble avoir un souci très, très paritaire. J'ai un exemple qui me vient en tête. Par exemple, il voit un arbuste et il demande à Ignace ce que c'est. Et Ignace lui dit « It's a papaya tree ». C'est un papaya. Et lui, il demande immédiatement « But where is the mamaya ?» Il y a Donc voilà. Et ensuite, pour la question du genre et de la race, bon, on a parlé du slapstick, donc de la tarte à la crème, de l'humour à la Max Annette dans les inspirations de Herriman. Et évidemment, en plus, il fréquentait tous ces gens du cinéma. Mais il y a aussi une tradition plus ancienne, qui est celle des minstrels, des ménestrels, qui est la tradition qui a été initiée par des Blancs, de se grimer en noir pour faire des spectacles comiques. Donc, dans ces spectacles, il y avait déjà la transformation d'une race à l'autre, et puis aussi d'un genre à l'autre, parce que, comme beaucoup de genres comiques, il y a des règles et des choses communes qui reviennent dans tous les spectacles. Et il y avait entre autres le personnage de la pauvre pucelle effarouchée, qui était toujours joué par un homme, en fait. Donc, il y a déjà. Pour voir un peu dans les sources de Herriman, il y a ces sources de comique. Avec la mise en abîme qui vient du fait qu'au bout d'un moment, ces spectacles de blackface, donc de visage noir, comme on les a appelés, ont ensuite été joués par des noirs. Donc c'était comme si c'était des noirs se déguisaient en blancs déguisés en noirs. Ensuite, parmi les autres particularités de la bande qui nécessitent. Pour ceux qui auront la curiosité d'aller les voir, un appareillage de notes assez conséquent, vu que j'ai agrandi encore ce qui avait été fait dans l'édition Fantagraphics, pardon, par Bill Blackbird. Donc, ce qui justifie un peu toutes ces notes, c'est que c'est une bande dessinée très référentielle. Alors, dans les références préférées de Herriman, il y a la Bible, qui est abondamment citée. Il y a Shakespeare, qu'il a étudié à l'école. Et Shakespeare, qui, bon, c'est sûr qu'il est déjà plus connu chez les Anglo-Saxons, qui connaissent des phrases par cœur que chez nous, mais en plus, il y avait un côté très populaire aux temps héroïques des États-Unis dans les spectacles de Shakespeare, parce que les spectateurs aimaient bien les spectacles gothiques, gore. Il y avait deux pièces qui tournaient sans arrêt. Et qui, vu qu'elle se passait beaucoup dans l'obscurité, pouvait tourner même en l'absence de lumière, quand c'était assez rudimentaire dans les théâtres de campagne, c'était évidemment Hamlet et Roméo et Juliette. Donc voilà un peu la base de. Donc après, il y a d'autres questions. Je ne sais pas comment on fait là, si on peut après passer à des.
Est-ce que vous pourriez, puisque donc vous avez apporté un certain nombre d'illustrations, juste retracer très rapidement les origines de la bande?
Alors les origines de la bande, oui, ça va permettre de parler d'un autre point qui est intéressant, qui est soulevé par Bill Blackbird dans une préface qu'on reproduira dans le deuxième volume de Crazy Cat. C'est que déjà, Herriman est intéressant. Bon, c'est un des pionniers de la bande dessinée, mais il y a un point de vue auquel il est également novateur, c'est qu'il se trouve à la source de la bande dessinée adulte. Parce qu'on a dit beaucoup dans les années 70, quand on défendait la bande dessinée en France, en disant c'est pas uniquement pour les mômes, c'est aussi pour les adultes, on a eu tendance à dire qu'elle était née pour les adultes aux États-Unis. C'est pas entièrement exact. Dans les premiers temps, quand les grands magnats de la presse, Hearst et Pulitzer, se bagarrent à coups de suppléments en couleur pour attirer le lecteur, le supplément comics est plutôt destiné aux jeunes lecteurs. Et en fait, la bande vraiment destinée aux adultes directement, elle va naître dans les pages sportives des journaux. Et la première BD adulte, en fait, à quelques semaines près, ça va être Mutt and Jeff, enfin, au début, ce sera Mutt tout court, de Bud Fischer. Ça, on est en 1907. Et au début, c'est un rédacteur en chef de section sportive qui veut attirer le lecteur et donc il décide de faire une BD dans la section sportive. C'est pour ça que dans Mutt et Jeff, Mutt est avant tout, au début, c'est un parieur, c'est un joueur aux courses. Et 2 mois plus tard, Herriman commence une BD qui s'appelle Mr. Prunes, The Plunger. Plunger voulant dire, bon, veut dire plongeur, mais là en l'occurrence, ça veut dire parieur et parieur fort. Et donc, qui va être de courte durée. Mais donc, ça met Herriman, qui d'un autre côté est dans la tradition du dessin de presse, à la naissance de la BD adulte. Bon, sa première BD va être de courte durée, mais en 2 ans plus tard, en 1909, il va faire quelques autres BD. Il y aura Baron Mouch, dont on pourra reparler éventuellement plus tard. Et surtout, comme dans les débuts de la BD américaine, on a une clientèle familiale, donc il y a beaucoup de ce qu'on appellera de family strips, de bandes dessinées familiales qui peuvent plaire à toute la famille. Et il crée donc pour son éditeur une BD qui s'appelle tout d'abord The Dingbat Family, la famille Dingbat, en juin 1910, et qui est une bande dessinée qui va peiner un peu à trouver ses marques au début. Il ne sait pas très bien quoi en faire. Et tout d'un coup, le 26 juillet 1910, il a cette idée de génie. Il y a deux perturbations qui vont arriver dans la bande dessinée. Il y a la famille, les voisins du dessus qui se mettent à troubler la quiétude des Dingbat. Là, on voit que Monsieur Dingbat qui reçoit un pot de fer sur la tête et sa femme de l'eau. Et surgit des sous-sols, il y a une souris qui vient embêter le chat de la famille, qui ramasse un projectile, donc là c'est sur le strip du haut, et qui le balance à la tête du chat qui n'en revient pas. Donc du coup, la bande va être rebaptisée The Family Upstairs, la famille du dessus, et Herriman va continuer ses petits dessins comiques en bas de page, où c'est le monde à l'envers, vu que là c'est la souris qui martyrise le chat. Et bon, la légende, donc, qui a l'air d'être confirmée par son biographe, veut que ce soit d'abord un garçon de bureau, un Gaston local, qui a encouragé Herriman à continuer ses petits dessins qu'il faisait uniquement, dira-t-il plus tard, pour meubler les bas de case. Ensuite, il y a le rédacteur en chef à qui ça plaisait, qui l'a également encouragé. Et quelques temps plus tard, dès le mois d'août, ils vont se retrouver gratifiés de leur rez-de-chaussée. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans la case, ils ont leur propre BD juste en dessous. Et donc là, on est en 1910, c'est ce qui m'a étonné, parce qu'il y a un débat constant sur le succès ou l'insuccès de Crazy Cat. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin à la mort de Herriman en 44, c'est sûr que la bande dessinée n'est plus publiée que dans quelques journaux. Mais au début, il y a dû forcément y avoir un succès, je disais, pour que l'éditeur lui offre sa bande indépendante. Parce que moi, j'ai trouvé dès le début 1911, dès le mois de février, parce qu'on voit la Saint-Valentin, oui, c'est au mois de février. Donc la bande dessinée a à peine 6 mois. Et déjà, il y a un article de journal qui dit qu'il faut débaptiser la Saint Valentine's Day pour le rebaptiser Crazy Cat's Day. Ce qui prouve qu'il y avait déjà quand même... Pareil, il est, à la même époque, il est cité comme exemple d'humour absurde dans la rubrique théâtre. Donc, alors, quelques temps plus tard, donc en 1913, voilà à quoi ressemblait une page de journal avec Crazy Cat qui a gagné. Alors là... Bon. Comme vous le remarquerez, là, c'est pas le journal normal, c'est pas le New York Journal, donc c'est déjà une BD, ça serait le San Francisco, ouais. C'est un journal qui les passe après. Donc là, on voit à la fois encore la Dingbat Family avec encore, enfin, c'est une bande plus ancienne, Crazy et Ignatz en dessous, là. Et on voit la nouvelle bande verticale. Et comme on voit, ils profitent vraiment de la verticalité de la bande, puisque là, c'est une bande où Ignace lâche la brique d'en haut et demande à Crazy de aller voir ce qui se passe. Alors vite, il descend et il va juste à temps pour se la recevoir sur la tête.
Oui. D'ailleurs, il y a eu une erreur de montage sur la page.
Oui, oui, absolument. Voilà. Oui. Il y en avait sans arrêt. Donc voilà pour le démarrage. Et donc en 1916, devant toujours le succès, il offre... Hearst offre une planche du dimanche à Herriman. Et plus loin, mais on n'est pas encore là, en 1935, il lui offrira la couleur.
La couleur. Voilà, j'attire votre attention sur le fait que la Crazy Cat apparaît sous format vertical. Et ça n'a pas duré très longtemps, en fait.
Ça a duré un an ou deux.
Oui, voilà, mais c'est voilà. Deux années maximum.
Voilà. Après, il a droit à son strip classique.
Oui. Je me demandais si donc, est-ce que déjà à cette époque-là, le fait d'avoir une petite bande supplémentaire en dessous, c'était quelque chose qui permettait au niveau des journaux de la diffuser ou non? Hein, puisqu'il y a eu souvent ça dans l'histoire de la
presse. L'impression qu'on en est, j'ai l'impression que c'est un pionnier là, parce que j'ai l'impression qu'on n'en est pas encore à cette période, voilà. Où c'est un argument de vente. Voilà, parce qu'après, donc, ça deviendra un principe, les bandes secondaires. Bon, il y aura, puisqu'on parlait de Cliff Sterrett tout à l'heure, il fera Dosh and Dat, ouais. La bande dessinée avec Polly Enerpals. Mais là, je crois que c'est vraiment de l'inédit.
Voilà, oui, la Dingbat Family était toujours diffusée, ouais. Avec le Crazy Cat, ouais. En dessous. D'accord. Le travail de traducteur donc de Crazy Cat, là, vous êtes trouvé confronté à bon, quel problème, quel choix vous avez fait, et surtout par rapport aux tentatives de traduction précédentes, puisque donc en France il y avait eu déjà quelques traductions. Notamment à l'époque de Futuropolis, la collection Copyright,
et puis avant, années 80, Charlie,
hein, et dans Charlie, ouais. Aussi, mais tout en sachant que Crazy Cat est une bande dessinée qui a été totalement inconnue en France, qui n'a jamais été, sauf erreur de ma part, n'a jamais été diffusée en France du vivant de l'auteur. Et j'ai un peu fouillé dans diverses archives. Apparemment, la première fois que Crazy Cat a été traduit en français, c'est dans le recueil des chefs-d'œuvre de la bande dessinée, le recueil édité par la Maison Planète en 1967, où il y avait deux pages. Et après, il faut attendre 1970. Et Charlie Mensuel.
La première, excuse-moi.
Oui.
Voilà.
Ah.
Voilà, c'est là où je l'ai découvert. Voilà. La fameuse rubrique. La fameuse rubrique.
C'est dans Spirou. D'accord.
De Maurice et Banker.
D'accord.
Dans Spirou, voilà.
Ok.
En décembre 65, voilà.
Ah, super.
Donc tu dis, après il y a eu Planète, c'est ça?
Voilà, il y a eu le recueil Planète en 67, ouais. Et après, mais c'était diffusé à partir de 65 dans Linus, dans la revue italienne Linus, et j'imagine que ça a dû être écrit à partir d'informations trouvées dans Linus.
J'en ai aucune idée, j'aurais bien, ouais. bien savoir, ouais.
D'accord, donc c'est ça la première...
la première apparition sur le territoire francophone.
Alors donc, oui, par rapport aux productions anciennes.
Alors, par rapport...
Précédentes.
Alors, le Futuropolis, comme Michel Pérez, qui était le traducteur de Charlie Mensuel, ont pris le parti de faire zozoter Crazy Cat. Alors quand je dis aujourd'hui que ça fait grande folle, ça paraît pas aussi évident aujourd'hui, effectivement, où le contexte n'est plus le même que dans les années 70, mais dans les années 70, il y avait non seulement des luttes homosexuelles, mais il y avait aussi les luttes il y avait un groupe qui s'appelait les Gasolines, qui était un groupe qui revendiquait le fait non seulement homosexuel, mais efféminé. Donc, dans ce contexte-là, d'ailleurs, ça a été fait remarquer, parce que le sexe de Crazy a fait l'objet, moi ça m'a fait marrer à l'époque, a fait l'objet d'un très long, une très longue polémique dans les colonnes du courrier de Charlie Mensuel. Ouais. Et donc, déjà, des gens à l'époque faisaient remarquer que le zozotement, ça faisait un peu grande folle. Alors, moi, j'ai vu sur les forums aujourd'hui que ça échappe peut-être comme référence. Toujours est-il qu'il y a. Ce zozotement, alors j'ignore s'ils avaient repris le parti italien, parce qu'en italien, j'en ai discuté avec des Italiens, c'est encore plus bizarre. Ils ont pris l'équivalent français du zozotement, mais c'est ils ont pris quelque chose qui s'appelle en italien leve ou l'air moscia mou. Qui est le zozotement, qui est, en français, c'est quand même relativement courant comme défaut de prononciation, tandis qu'en italien, il s'agit d'un défaut de prononciation vraiment rarissime, vu que ce sont des Italiens qui non seulement n'arrivent pas à rouler les airs, mais là, il y a toute l'Italie du Nord qui prononce les airs à la française, donc ça, il y en a plein, mais qui n'arrivent même pas à prononcer les airs non roulés et qui les prononcent un V à la place du R. Enfin, toujours est-il que... en France, aussi bien dans Charlie que ensuite dans les albums Futuro. Le traitement du langage de Crazy Cat s'est limité à des petits gimmicks de prononciation, aux allitérations qui sont relativement faciles, même si ça pose des problèmes, c'est pas évident sans arrêt, enfin bon, c'est pas insurmontable de reproduire des allitérations, mais en faisant fi absolument de tout le reste, des différentes sources de langage, du redécoupage de mots. Alors, mon premier problème avant toute chose, ça a été d'abord le ton, évidemment, ça a été de trouver la voix de Crazy. Et une fois ça trouvé, j'ai eu la tentation à un moment de faire un peu du André Martel ou du Buffet, qui sont des poètes. Enfin, du Buffet, on le connaît en tant que peintre, mais il a fait beaucoup de poésie, entre autres, publiée au Collège de Pataphysique, avec un recueil qui s'appelle justement « Où qui va traîner ses bottes ?» où c'est écrit « O-U-K-I-V-A, traîner, T-R-E-N-E ses bottes, etc. » Et je me suis dit que si j'en faisais trop, le but de la bande dessinée, c'est quand même d'être lu. Donc j'ai un peu parfois utilisé de la phonétique comme ça, mais j'ai plutôt traité, disons, penser d'abord à la musicalité et au côté incongru de la langue, sans faire de la phonétique à tout prix qui ne serait pas passée en français. Mais ceci dit, je me suis un peu plus lâché dans le... Sans le rendre incompréhensible, dans le second volume.
Qui n'est pas encore sorti.
Mais ensuite, le principal problème, en fait, comme je l'esquissais tout à l'heure, ça a été de retracer, de me mettre vraiment dans l'époque, parce que les premières années du XXe siècle, je les connaissais bien de ce côté-là de l'Atlantique et beaucoup moins de l'autre. Donc ce que je racontais, c'est pour ça que je me suis penché sur l'humour, savoir pourquoi ça faisait rire, et un peu sur tout le contexte. Alors un travail, par exemple, que j'ai fait, Michael Tisserand, le biographe de Herriman, m'a signalé que ça n'avait été même pas fait aux États-Unis, c'est que quand on lit Crazy Cat, on s'aperçoit, ce qui va avec l'époque, c'est qu'on chante beaucoup à l'époque. Il faut savoir que, évidemment, sans parler d'Internet, la radio en est vraiment assez balbutiement, mais la radio qui va d'ailleurs aider à populariser des chansons, mais en tout cas, ce qui se vend comme des petits pains, ce sont les partitions. Une chanson qui marche, elle va vendre 1 million, 2 millions de partitions, et tout le monde va chanter le tube du moment. Donc quand on voit chanter Crazy par moment, à part ces tubes, « There is a happy land far, far away », qui est une hymne religieuse sur laquelle on reviendra éventuellement. Mais le lecteur n'avait qu'à lire 3 mots d'une chanson et immédiatement, il avait toutes les connotations. Donc je me suis amusé à retrouver tous les textes de chansons. Et c'est là ce qui permet de s'apercevoir, c'est que c'est pour ça que j'insiste un peu dans la préface du premier volume, plus que sur le côté haine ignatien, qui est discutable, mais vraiment sur le côté de l'amour, parce que c'est vraiment toute la première période de Crazy Cat, avant même les planches du dimanche. Herriman installe vraiment tous les indices du discours amoureux de Crazy par ses références, aussi bien les références de chansons, mais également les références shakespeariennes. On retrouve la Dark Lady des sonnets shakespeariens. Et voilà, donc ça c'est un travail. Et puis après c'est le type de traduction où le premier travail est évidemment de tout comprendre avant même de se mettre à traduire. Et ça a été très très difficile parce que vu le côté cryptique et puis la distance de l'époque également. J'interrogeais beaucoup d'Américains, il y a beaucoup d'Américains qui séchaient eux-mêmes. Et donc je pense à un doute près vraiment sur les quelques 250 Sundays, je crois qu'il y a à une question près, je pense avoir tout retrouver. Et je pense que même les Américains pourraient bénéficier de la lecture des notes.
En fait, jusqu'aux années 20, la bande dessinée de presse était, justement, comme son nom l'indique, c'était une bande dessinée de presse qui fonctionnait énormément en synergie avec l'actualité. Parce que, bon, effectivement, la radio ne débute qu'en vers 1920 aux États-Unis. Il n'y aura pas de télé avant l'après-guerre. Donc, c'est vraiment le média principal. C'est par là que tout passe, quoi. Donc, c'est sûr qu'il y a vraiment tout un travail de décryptage qui, entre retrouver les références littéraires, les chansons, mais aussi les allusions à l'information. Il y a aussi les allusions occasionnelles à une dame qui faisait une rubrique une rubrique mondaine dans les journaux Hearst, KCB.
Oui.
Voilà, il y a aussi que c'était une référence que ne pouvaient saisir que les lecteurs.
Bah oui, oui. Et puis souvent, il fait aussi très très souvent des références à ses collègues aux autres dessinateurs de BD. Alors évidemment.
Et ça, c'était un classique.
Ça se fait toujours. Voilà. Là, par exemple, on est encore très tôt. On est en septembre 1910. Ah oui, d'ailleurs, avec ce gag, là, il a appelé The Family. Donc, ça s'appelait The Family Upstairs. Et là, Crazy et Ignace deviennent le temps d'une bande The Family Downstairs. La famille du bas. Et là, on voit. On voit Crazy qui chante une chanson célèbre de l'époque, une chanson du 19e siècle, hein, My Rosary, mon rosaire. On dit je pense à toi en égrenant mon rosaire. Voilà, c'est dès ce moment-là. Et là, d'ailleurs, avant de savoir que c'est Crazy, il y a Ignace qui trouve la chanson divine.
Et il a interverti les.
Oui, les places et les dingbats se retrouvent.
Les dingbats deviennent la bande du bas et Crazy devient la bande du haut. Oui.
Et ça, on est donc cette fois-ci un peu plus tard, on est en octobre. Et voilà, le premier, c'est une bande historique aussi, c'est le premier baiser, voilà. Où Crazy, dans le strip du bas, profite du sommeil d'Ignace pour déposer un baiser sur son front et. Ignace en se réveillant qui dit « J'ai rêvé qu'un ange m'embrassait ». Et en fait, comme on le voit, quand ils vont avoir droit à leur strip séparé, pendant un bon moment, le décor vont être guère moins dépouillés. Et en fait, le chien n'interviendra que beaucoup plus tard. Et pendant des mois et même des années, c'est Crazy et Ignace qui passent leur temps ensemble. Et donc, il y a quand même, sinon de l'amour de la part d'Ignace, du moins une complicité qui ne consiste pas uniquement à trouver le moyen de recevoir ou d'envoyer la brique. Alors, un peu plus tard, il y a un des fameux dessinateurs et collègues de Herriman qui s'appelait James Winnerton, qui était un des plus jeunes employés de Hearst. Je crois qu'il a commencé à 16 ans à travailler pour Hearst. Et il s'est retrouvé, il a contracté la tuberculose. Le médecin lui donnait 15 jours à vivre carrément. Et Hearst lui a payé, lui a dit, mais il faut aller dans le désert du Nevada, il faut aller là-bas pour te soigner. Et il est mort à près de 90 ans. Donc,
ouais,
très
âgé.
Donc la cure a été efficace. Et Swinnerton a eu une influence considérable, entre autres, sur Herriman. C'est lui qui a amené, à l'époque où personne n'allait là-bas, des amis peintres et dessinateurs dans cette région qui est située entre ce qu'on appelle entre le Grand Canyon et ce qu'on appelle Monument Valley au nord-est du Grand Canyon, là où John Ford va faire un grand nombre de ses films. Donc voilà un des monuments emblématiques de ce qu'on appelle Monument Valley, donc réalisé par les millénaires et par l'érosion qu'on appelle la mitaine à cause de sa forme de gant, et qu'on retrouve dans Crazy Cat. Voilà la même chose. Bon, là c'est la définition. Et bon, là c'est un tableau de James Swinnerton. Et donc ils vont constituer une équipe inséparable avec Herriman et avec Rudolf Dierks, l'auteur des Katzenjammer Kids, plus connu chez nous sous le nom de film Pam Poum. Et ils vont se mettre à aller sans arrêt là-bas. Et puis dans les années 20, Harry Mann, qui de Los Angeles, où il était quand il était jeune, était revenu sur New York, retournera s'installer à Los Angeles pour être le plus près possible de ce décor, de ces Indiens dont il aime beaucoup la culture. Et d'ailleurs, il y a pas mal de références dans les premiers strips de Crazy Cat à la culture indienne, au fait que les Américains les ont chassés, enfin que les Anglais les ont chassés. Et petit à petit, on va arriver à la seconde période de Crazy Cat, enfin plutôt la seconde période côté public, à ces fameuses années 20, où là, c'est l'intelligentsia qui va s'en emparer. En 1922, il y a un critique très fameux de l'époque qui s'appelle Gilbert Sells, qui fait un article absolument dithyrambique dans Vanity Fair sur le Crazy Cat et sur Harry Mann, article qui constituera ensuite un des chapitres d'un livre qu'il publie qui s'appelle The Seven Lively Arts, les sept beaux-arts, et qui va tout d'un coup faire découvrir la bande dessinée en général et Crazy Cat à un public particulier. Là, on va voir, par exemple, ce qui fait que quelques années plus tard, Vanity Fair accueillera Harry Mann dans son Hall of Fame. Donc là, on est en 1923 où Harry Mann est accueilli chez les gens chics.
Voilà. Et avec une photo très typique de Harry Mann, puisque, hormis des photos de jeunesse, enfin les photos de son mariage, etc., après, il était toujours photographié portant un chapeau. Ouais. Voilà. Et donc, et beaucoup de ses collègues dessinateurs se moquaient de lui, enfin, ou faisaient de l'humour sur ce point-là particulier. Et effectivement, on n'a pas de photo, à ma connaissance, il n'y a pas de photo de Harry Mann sans chapeau après celle de son mariage.
Oui, voilà, oui, ce ne sont que des photos de jeunesse quand on le voit sans chapeau. Et effectivement, donc pour revenir à l'article, j'en parle, et pour les anglophones, je ne saurais trop conseiller d'aller chercher sur Internet, parce qu'ils sont toujours disponibles, les articles d'Elizabeth Crocker, donc qui résume ainsi, et qui, c'était la première, après tous les débats, à dire que vraiment, c'est au centre de la BD, le genre, le débat est sur le genre et sur la race, puisque donc, en fait, l'arrière-grand-père de Harry Mann avait épousé ce qu'on appelait une fille de la classe qu'on appelait les gens de couleur libre aux États-Unis, qui étaient en fait souvent des descendants des occupants français, et donc de résultats déjà de mariages mixtes à l'époque, mais qui n'étaient pas esclaves. Mais bon, ça n'empêchait pas l'ostracisme et le racisme vis-à-vis de la couleur. Donc lui, il avait épousé une femme déjà de couleur. Ensuite, son fils avait épousé, qui était déjà lui-même le résultat d'un mélange de races, avait épousé une cubaine. Et donc, il pouvait ce qu'on appelait passer blanc, ce qui voulait dire passer pour blanc. Et donc, devant le racisme ambiant, c'est le père de Harry Mann qui voulait ouvrir une pâtisserie. Il a finalement décidé de l'ouvrir à Los Angeles, où le taux de population noire était de l'ordre de 1% à l'époque, donc il n'y avait pas ou peu de racisme. Donc en 1890, quand Harry Mann a 10 ans, il emmène tout le monde à Los Angeles. Et c'est donc là, quand il a 17 ans, qu'il commencera à travailler dans des journaux, d'abord au service gravure, puis à réaliser qu'on a vu son talent des petits dessins. Mais donc il est né, sur son certificat de naissance, il est né colored, de couleur. Et je crois que c'est sa fille qui insistera sur le fait qu'il est le fils de George Harry Mann de Paris et Mabel Harry Mann d'Alsace-Lorraine, et qui le fera enterrer. Enfin, sur son certificat de décès, il est caucasian, il est blanc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les ancêtres de Harry Mann, son grand-père et son arrière-grand-père, luttaient déjà pour l'égalité et contre le racisme. Et donc, ce qui apparaît dans plusieurs bandes, il y a et la question raciale, mais aussi la question sociale. On voit qu'Ereman perd rarement une occasion, puisque Ignatz et Écrasie se battent pas uniquement à coups de briques, mais également à coups de citations et d'éruditions. Donc il ne perd pas une occasion de citer des penseurs sociaux, des poètes qui ont aussi lutté pour des causes sociales, des féministes. À un moment, dans la bande même, on voit Écrasie défiler et demander le vote des femmes.
C'est vrai qu'il y a ce dernier point qui est que Ignatz est un personnage assez foncièrement antipathique de manière permanente, tandis que Crazy est quelqu'un de naïf, plutôt sympathique, là aussi sur toute la durée de la bande. Quoi. Ça a toujours été tranché assez clairement. Bon. Merci encore, Marc Voline, pour cette présentation, pour ce remarquable travail. Nous attendons les autres volumes.
Le deuxième est déjà traduit. Okay.